Bonjour Patrice Wallet, consultant en développement commercial.
Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise.
Bonjour à tous, Patrice à l'antenne, RLP Business 102.3. Aujourd'hui, on va parler saveur, on va parler plaisir, on va parler gourmandise. Bref, on va parler agroalimentaire, mais pas n'importe quel agroalimentaire. On va parler l'agroalimentaire, on va parler du Périgord, on va parler de chefs d'entreprise qui se sont lancés dans cette activité. Et c'est après ça.
Les actualités.
Alors les actualités, on va parler un peu d'agroalimentaire, un peu dans notre studio, en France, en Dordogne. On va parler d'agroalimentaire, alors peut-être pas industriel, mais plutôt artisanal avec nos deux invités. Nos invités, c'est Madame Jean-Philippe et Monsieur Thomas Massoubre. Alors Jennifer, votre société, c'est JP Spiritueux. Donc, on a bien compris le produit que vous commercialisez, mais on en parlera tout à l'heure. Thomas Massoubre, vous êtes conserveur traditionnel, foie gras. On en parlera aussi. Agroalimentaire, dans notre département, ça se met aussi sur l'artisanat. La chronique du jour à aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'on peut dire sur l'agroalimentaire ? Tout va bien en France. La France est un gros producteur d'agroalimentaire. La France est bien, c'est un secteur qui est bien subventionné à aujourd'hui. La France a comme stratégie de réindustrialiser la France, le territoire, ramener l'agroalimentaire le plus possible sur le territoire. Au niveau artisanat, qu'est-ce qui se passe ? Comment le gouvernement aide nos artisans ? On va en discuter dans quelques minutes avec nos deux invités.
L'invité de la semaine.
Jennifer, Jean-Philippe, bonjour. Vous êtes madame la patronne de JP Spiritueux. Thomas Massoubre, bonjour aussi. Vous êtes le patron de la société Le Ranquet, conserveur de foie gras et de produits à base d'oie et de canard. Merci d'être là.
Bonjour, merci surtout à vous pour cette invitation.
Alors, je vous présentais tout à l'heure comme deux artisans du plaisir culinaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, honneur aux dames, hein. Jennifer, dites-nous un peu ce que vous fabriquez, ce que vous vendez.
Bien sûr. Alors nous, en fait, nous avons créé une société avec mon mari, Jérôme Jean-Philippe. Et du coup, nous sommes créateurs de boissons spiritueuses à base de cognac. L'idée, c'est aujourd'hui de dynamiser un petit peu ce spiritueux qui est vraiment très boudé par les Français, puisqu'il est donc produit exclusivement en France, mais exporté à plus de 98%. Comme on dit souvent, les 2% qui restent, ce sont les Charentais. Donc l'idée, c'est vraiment de redorer ce blason, le blason de ce spiritueux. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas l'adoucir un petit peu, le dynamiser un peu et proposer une nouvelle façon de le déguster. Voilà, donc à travers notre gamme en fait de cognac aux saveurs exotiques, donc nous avons une gamme permanente de 4 saveurs, citron vert, gingembre, passion, ananas et une saveur éphémère à l'hibiscus, on propose une autre façon du coup de le déguster. Vous pouvez le déguster frais, en cocktail, en cuisine, vous faites vraiment ce que vous voulez.
C'est curieux d'ailleurs parce que le cognac, très honnêtement, bon, je suis un petit peu plus âgé que vous, un tout petit peu plus, hein, mais le cognac, moi j'ai connu ça dans ma famille, c'était sur la table de tous les Français, quoi. Il y avait pas un repas en France où on n'avait pas le petit digestif qui va bien. Alors moi c'était au niveau du digestif, pas l'apéritif. Mais le cognac était l'invité dans toutes les familles françaises et d'un seul, il a disparu. Alors pourquoi ? Mystère. Mais c'est vrai qu'il se produit encore pas mal de cognac, essentiellement vendu à l'étranger. Le français a oublié ce produit.
Complètement. Donc, c'est exactement ça.
Merci de le reprendre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les foie gras, Thomas ?
Bah, écoutez,
les vôtres, en tout cas.
Bah, écoutez, les miens, donc moi je suis conserveur, donc je me fournis en Dordogne, au niveau de la matière première, de l'oie et du canard, et je transforme de façon artisanale, voilà, sans conservateur, sans colorant, sur du foie gras, des plats cuisinés, du magret séché, voilà, tout ce qui est à base de canard et d'oie.
D'accord. Voilà. Donc, vous deux, vous travaillez tout seul, vous avez des collaborateurs, comment ça fonctionne aujourd'hui l'artisanat ?
Alors, moi, je travaille un petit peu avec mon mari, du coup, qui est à la base le créateur de ce produit. Il m'aide vraiment... alors, j'y m'aide, mais c'est, on s'aide ensemble, en fait. Il va plutôt s'occuper de la partie production. Et moi, je vais m'occuper plus de la partie, du coup, commercialisation, administratif, comptabilité.
Et vous, Thomas ?
Moi, je suis seul dans mon entreprise.
Alors, moi, j'ai une question parce que je suis partisan. Mais comment vous arrivez à tout faire, quoi ? Vous avez des super pouvoirs, quoi. Parce que entre la production, l'emballage, la logistique, la commercialisation, la comptabilité, un artisan, en fin de compte, il fait tout, quoi.
Je pense qu'à partir du moment où c'est son bébé, en fait, c'est un projet et on prend à cœur le fait de travailler de A à Z, en fait, tout simplement. Donc, je pense que c'est ce qui nous donne la force au jour le jour.
Alors, vous savez, dans cette émission, on aime bien parler produits, on aime bien parler des sociétés, mais on aime bien aussi parler des entrepreneurs, c'est-à-dire de vous. Mais qu'est-ce qui vous a pris par la tête de... Ou alors, vous êtes tombé là-dedans, vous êtes un enfant d'artisan. Comment ça se passe ? Pourquoi ? Comment vous êtes arrivé à être artisan, Thomas ?
Bah écoutez, moi, ça a été, c'est venu un peu de fil en aiguille. J'ai joué au basket pendant quelques années.
Un basketteur.
Un basketteur. Et du coup, je voulais monter un projet d'épicerie fine à Bordeaux, parce que j'ai vécu 2 ans à Bordeaux. Et de fil en aiguille, je me suis dit, pourquoi pas me lancer sur la production, parce que mon père était gaveur, il gavait des oies.
D'accord.
Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
Donc,
voilà.
À la fin de votre vie sportive, c'était professionnel, d'ailleurs, le basket ?
Oui, j'ai joué pro et semi-pro.
D'accord. Donc, à la fin de votre carrière, on va dire, professionnel dans le sport, vous êtes retrouvé un petit peu retourné sur vos origines, en tout cas, le métier de vos parents.
Exactement. Mais c'est vrai que c'était déjà un souhait à la base de créer quelque chose, quoi. Alors, dans quel domaine j'ai mis un peu de temps à le découvrir, mais voilà, c'était vraiment l'idée d'être...
Et vous, Jennifer ?
Alors, nous,
des papas et mamans dans les spiritueux, dans l'alcool ? Pardon.
Pas du tout, pas du tout. Non, non, nous, en fait, on était avec mon mari agent de la fonction publique. On travaillait pour le département dans le social. Donc, mon mari était plus moniteur, éducateur pour les adolescents. Et moi, je m'occupais, j'étais instructrice APA. Donc, rien à voir. Alors, c'est vrai qu'il y avait quand même une filière commerciale à la base pour moi, scolaire. Et mon mari avait déjà fait des formations agroalimentaires, avait déjà travaillé dans ce secteur-là. Mais on n'était pas du tout voués à créer un produit. Et puis, juste envie de changer de vie, je pense. Et donc, c'est vrai que bon, il y a une histoire quand même de souvenirs d'enfance et de gros coups de cœur envers un ce spiritueux concernant mon mari. Et donc, voilà, ben ça, on a dit, allez, c'est un tremplin. On essaie de créer ça.
Et par quelle occasion, à quel moment dans votre vie vous êtes engagé à faire autre chose ? C'est quoi qui vous a réveillé un cauchemar ?
Non, je pense qu'à un moment donné, ben, surtout dans le social, je pense, parce que, alors on se plaisait énormément dans ce qu'on faisait, mais à un moment donné, quand ça fait des années, moi ça faisait 16 ans que j'étais au département, je vous avoue qu'on a besoin aussi de passer à autre chose, de voir autre chose, de ne pas se terrer dans un secteur qui peut-être... voilà, on peut perdre la flamme, je ne sais
donc
pas.
Donc c'est possible, à notre époque de pouvoir, en fin de compte, faire plusieurs métiers.
Nous, c'est ce qu'on inculque totalement à nos enfants. On essaie de leur dire qu'en fait, ce n'est pas parce qu'ils se lancent dans une filière scolaire ou quoi que ce soit qu'ils seront obligés de faire toute leur vie le même métier.
Ce qui n'était pas, j'ai envie de dire, quelque part à la mode de vos parents, dans la génération de vos parents. Normalement, on faisait un métier et puis on gardait ce métier-là à vie, quel que soit le secteur, d'ailleurs. L'idée de pouvoir faire plusieurs professions dans une même vie, c'était quelque chose qu'on n'envisageait pas. Et vous, c'est votre génération, le démarrage de ça.
Ouais, je pense, possible, parce que c'est vrai que...
Vous encore, vous êtes issu du sport, donc dans le sport, on sait que ça s'arrête tôt. Par ce fait, on est obligé de réfléchir de se poser la question, bon oui, mais d'accord, mais je fais quoi après ?
Ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être plus de possibilités où on a peut-être l'esprit, entre guillemets, plus ouvert que nos parents, peut-être moins de crainte de changer de voix, quoi.
Oui, puis peut-être que la société est plus dynamique aussi. On remet plus vite en cause les choses qu'avant. C'est pareil, vous étiez dans la fonction publique, fonctionnaire. Bon, alors là, logiquement, quand on est rentré dans la fonction publique, on en ressortait les pieds devant. Non, j'exagère, mais on en ressortait qu'à la retraite, quoi. C'était inenvisageable de faire autre chose.
Tout à fait, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'on a la chance
Excusez-moi, je vous coupe, mais ça fait combien de temps que vous faites votre métier, vos métiers d'artisan ?
Alors nous, depuis 2019, on a créé le produit. Ouais. Après, on s'est vraiment mis intégralement dans cette fonction-là à partir de 2022, où on était en disponibilité au sein du conseil départemental.
D'accord. Et vous, Thomas, donc vous avez, ça fait combien de temps que vous êtes
Depuis 2016.
Donc ça commence déjà à faire des beaux parcours. Alors j'aimerais qu'on revienne maintenant un petit peu sur votre activité d'artisan. Comment on peut qualifier l'artisan d'aujourd'hui, en 2024? C'est quoi un artisan?
Un artisan, c'est une personne qui va créer quelque chose, créer un projet avec du savoir-faire, avec de la tradition également, avec en respectant cette fabrication artisanale, donc en essayant d'utiliser le moins d'industrie
possible, je pense. Parce que la fabrication artisanale, c'est quand même pas le métier le moins emmerdant, excusez-moi, pour ce... parce que à la limite, on ferait de la couture, on risque pas grand-chose, mais dans l'agroalimentaire, on a des normes, on a des qualités à respecter, on a traçabilité. Enfin bon, c'est quand même assez lourd, quoi, à aujourd'hui. Et l'artisan, aujourd'hui, peut encore travailler avec toutes ses obligations.
Oui, je pense, oui. Enfin, je pense pas, je suis sûr.
Parce que vous le faites, bien sûr.
En respectant, comme vous dites, les normes d'hygiène, de sécurité, et en suivant le cahier, quoi.
C'est tout à fait possible.
C'est tout à fait possible. Et puis, je trouve qu'il y a aussi des organismes qui sont là aussi pour nous aider. Je sais que nous travaillons vraiment en partenariat avec la Chambre des métiers de l'artisanat.
D'accord.
Et on a un référent qui est juste formidable. Et de la moindre question, on va... Voilà, que ça soit au niveau administratif, que ça soit au niveau comptable, que ça soit... Enfin, je pense qu'on peut être aussi aidé. C'est vrai. Alors que c'est pas simple, c'est certain. Mais
C'est bien, Jennifer, que vous puissiez citer la Chambre des métiers, parce qu'on... toutes ces institutions se font plus souvent critiquer que féliciter. Et là, c'est très bien aussi de leur, de leur dire bravo, quoi.
Nous, clairement, sans eux, honnêtement, que ça soit pour des missions, que ça soit pour plein de choses, des appels à manifestations d'intérêt, tout ça, sans eux, on ne serait pas grand-chose. Ils nous ont beaucoup, beaucoup.
Comme je disais tout à l'heure, un peu dans la chronique, l'agroalimentaire, aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'elle est sous la gouttière. Il y a beaucoup de subventions. C'est stratégique pour le pays de pouvoir ramener sur le territoire des gros faiseurs. Alors, gros faiseurs, c'est l'industrie, bien sûr, agroalimentaire, et dépend de moins en moins, de fabrication à l'étranger. Donc, eux, ils sont sous la gouttière, ils ont des subventions. En tout cas, on les aide. Dans l'artisanat, est-ce que réellement vous avez des aides financières? Est-ce que vous avez un accompagnement? Chambre des métiers, on vient d'en parler. Mais pour se lancer en tant qu'artisan,
Faut avoir
de l'argent, faut être fou.
Bon, déjà certainement, c'est sûr, il faut déjà avoir quand même des fonds. Mm-hmm. C'est un projet, donc c'est un rêve que l'on monte. Il faut avoir des économies un petit peu. Après, nous, c'est vrai qu'on a été aidés également, donc via la Chambre des métiers aussi, par Périgord Initiative et le Grand Périgueux également. Et la commune également. C'est vrai que il y a eu des aides là-dessus. On a pu obtenir des prêts plus facilement. On a pu avoir aussi une aide, donc justement sur investissement matériel. Délivré par le Grand Périgueux. Donc on a eu un prêt par le Périgord Initiative à taux zéro. C'est des choses qui aident énormément, c'est certain.
On peut dire qu'entre l'idée, ou la volonté de vouloir s'engager dans l'artisanat et de fabriquer, de commercialiser, entre ce moment où on a l'idée, où on se dit « allez, c'est bon, je me lance », et le moment où on peut en vivre, il se passe combien de temps ?
Je pense que ça dépend des parcours, ça dépend des structures qui sont montées, ça dépend de pas mal de paramètres.
Est-ce qu'on peut espérer en vivre quand même assez rapidement? Est-ce que c'est une histoire de 6 mois, d'un an?
Je pense que c'est une histoire d'année, honnêtement.
C'est une histoire d'année pour vous, en tout cas.
Et voilà, et pour nous, pour notre part, on garde l'espoir d'en vivre.
C'est peut-être plus rapide dans le foie gras, non? Peut-être.
Je sais pas. Après, comme je vous disais, ça dépend vraiment
des structures,
de la façon de commercialiser, des volumes, de pas mal de choses. Moi, je sais que pendant 2-3 ans, j'ai bossé en intérim à côté.
D'accord.
Donc voilà, quoi. Puis ça dépend l'énergie qu'on y met. Enfin, ouais, y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte.
Oui, donc on peut tout à fait imaginer aussi se lancer en tant qu'artisan et avoir une autre activité complémentaire pour avoir peut-être un revenu plus régulier. Donc ça, c'est aussi envisageable. C'est important de dire ça pour nos auditeurs qui nous écoutent, parce qu'on entend souvent, un artisan, mais comment il est devenu artisan? Donc essayer d'apporter quelques réponses. Donc en effet, il peut y avoir des aides de nos institutions locales, départementales, régionales. Alors pas nationales, parce que je pense pas que l'État... Déjà, l'État s'occupe de l'industrie, peut peut-être pas s'occuper de tout le monde, mais en tout cas, localement et régionalement, on peut quand même solliciter quelques aides. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui m'est peut-être un peu cher parce que c'est le cœur de mon métier, c'est en tout cas mon parcours professionnel, c'est le commerce. Comment, en tant qu'artisan, on arrive à vendre ce qu'on fabrique? Parce que ça, c'est quelque part, c'est aussi un grand mystère, ça, parce qu'il faut fabriquer pour vendre, ça c'est une évidence, mais une fois qu'on a fabriqué, qu'est-ce qu'on en fait ? Jennifer.
Alors nous, on a un petit peu évolué en termes de vente, c'est-à-dire qu'au départ, on vendait en direct ce que nous faisions. Donc ça, c'était une chose. Et je pense qu'en fait, on en est vite revenu de cette situation-là. Et le fait aujourd'hui donc, de se diriger que vers la vente aux professionnels et de laisser, on va dire justement, comme j'aime souvent dire, à César ce qui appartient à César, et c'est leur corps de métier, les commerçants, que ce soit les cavistes, que ce soit les distributeurs. Alors nous, on ne travaille pas avec de gros distributeurs. On travaille avec un distributeur local, qui va s'occuper plus de la partie CHR, donc restaurateur et bar, et cela nous aide énormément. Ça, c'est
d'accord, donc pour bien comprendre, vous n'allez pas vendre directement au restaurant, vous passez par un intermédiaire, un grossiste, tout simplement.
Alors, c'est pas tout à fait un grossiste. Non, c'est pas tout à fait un grossiste. Nous, les grossistes, aujourd'hui, on ne pourrait pas travailler via des grossistes puisqu'on ne pourrait pas du tout vivre de notre produit.
Vous n'avez pas assez de quantité,
non,
peut-être.
C'est surtout qu'il faut prendre du volume. On peut en apporter un peu, mais du coup, qui dit volume dit prix plus bas, et forcément, prix plus bas, moins de...
Parce que revenons à votre produit pour bien comprendre. Mm-hmm. Vous vendez du cognac.
C'est ça.
Du cognac que vous retravaillez. Hein, donc, c'est pas vous qui fabriquez le cognac. Vous achetez un cognac de bonne qualité au producteur de cognac, et vous allez le transformer ou tout du moins rajouter certains produits. Expliquez-nous quand même un peu.
C'est ça. Alors nous, en fait, on travaille qu'avec un seul producteur. Aujourd'hui, c'est vraiment un partenaire de travail. Donc c'est la maison Brutus, je peux citer.
Bien sûr.
Donc c'est Stéphane Brutus de Vaurouillac. Donc nous, on travaille vraiment en Charente, exactement. Donc c'est la région Finbois du cognac. On a choisi ce cognac-là et c'est vraiment un producteur qui a cru en nous. Donc c'est pour ça, quand je vous dis que c'est un partenaire, c'est vraiment ça. Et donc, avec qui donc, nous travaillons donc, sur le cognac. Donc, il nous informe exactement de l'assemblage, des eaux de vie. Donc, on a vraiment une traçabilité impeccable sur le cognac que nous récupérons. Il nous fait une énorme quantité chez lui. Il produit une énorme quantité. Et nous, du coup, enfin, une énorme. Tout est relatif, hein, à l'échelle artisanale toujours. Et nous, nous prenons une partie, nous ramenons en Dordogne, par 500 litres, des choses comme ça. Et nous faisons, du coup, une production. Donc, en confectionnant...
500 litres de cognac dans le coffre ?
Tout à fait, exactement.
Vous avez un laissez-passer ?
On a des documents administratifs électroniques, on est bien obligé, tout à fait. Donc, on transporte ça en Damjane, pour qu'il n'y ait vraiment aucun souci sur le transport. Et donc après, nous confectionnons un sirop artisanal donc à Boulazac. Et puis, donc découpe des fruits frais. Nous travaillons avec un primeur également de Boulazac. Notre idée, c'est ça aussi, hein, c'est de travailler qu'avec des acteurs locaux. Et donc, nous faisons macérer. Donc, sur notre gamme permanente, donc passion, gingembre, citron vert et ananas, on est sur une macération en cuve inox. On fait macérer environ 2 mois. On filtre et on met en bouteille.
D'accord.
Et sur l'hibiscus, nous sommes en macération en Damjane.
Donc une fois que vous avez fait votre produit, on peut le nommer votre produit d'ailleurs, comment
Bien
il s'appelle ?
Bien sûr, ça s'appelle les alambics JPS.
Ah, les alambics JPS. Donc une fois que vous avez fabriqué votre cognac aux saveurs exotiques, vous le commercialisez, vous le vendez, alors à qui ?
Alors, moi, du coup, c'est...
Nous, on veut des noms, parce que...
Il n'y a pas de problème.
Parce que
quand même,
si on veut en trouver, il va bien falloir qu'on sache où aller, quand même.
Alors, localement, nous, déjà, on va travailler plus localement. Donc, on va être avec le distributeur de l'entrepôt, donc Didier Manier à
l'entrepôt à Boulazac.
Voilà, à Boulazac, tout à fait. Donc, c'est vraiment M. Manier qui va s'occuper, et son équipe, bien sûr, qui va s'occuper de la distribution...
Un bel établissement.
Tout à fait. De la distribution, du coup, au point de vue des CHR, donc tout ce qui est restaurants et bars locaux. Donc, on commence à avoir pas mal de petits points de consommation localement. Donc, quand je dis localement, c'est vraiment tout le département. Et ensuite, on va être revendu également dans des caves de Périgueux. Donc, là, c'est passé en direct. Donc, je vais faire des rendez-vous et je présente les produits. Donc, vous pouvez nous retrouver donc, à la cave Wilson, qui appartient également donc, à l'entrepôt. Mais aussi, nous travaillons avec Julien de Savignac. Donc, nous sommes distribués dans toutes ces caves. Nous sommes aussi à Maison Léon, localement. Nous allons être après au Sans Pression, qui est également un point de consommation.
Donc, sur un rayonnement départemental.
Alors ça va être sur un rayonnement départemental, où là, vraiment, je vais m'occuper, entre guillemets, vraiment de la commercialisation. Ça va être notre part à nous. Après, nous allons travailler avec des agents commerciaux dans le reste de la France, qui, eux, du coup, travaillent de façon à nous implanter. Donc, on va être distribué maintenant vraiment dans toute la France.
D'accord. Donc, si je veux acheter une bouteille d'alambic et me faire un petit plaisir... Direction les cavistes.
Exactement.
Un peu sur Internet aussi, peut-être ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
On avait, avant, justement, quand on faisait de la vente aux particuliers, on avait. Maintenant, notre site Internet est vraiment qu'un site vitrine où vous pouvez avoir toutes les nouveautés, des recettes cocktails.
Mais et aller acheter chez des professionnels.
Voilà, il y a une carte interactive où, du coup, vous pouvez suivre à chaque fois l'ajout de professionnels qui pourra distribuer la
bouteille. Et vous, Thomas Massoubre, Le Ranquet, conserverie, foie gras, Canaréwa. Concrètement, où est-ce qu'on trouve vos produits? Parce que moi, ça me met à l'eau, à la bouche. Hein.
Vous les trouvez chez moi. Non, d'accord. Moi, je fais vraiment que de la vente directe, par contre, donc sur des salons, sur les marchés gourmands.
D'accord.
J'ai un site internet aussi.
On vous trouve sur le marché de Périgueux?
Non. Alors, quand je parle sur les marchés, je fais pas mal de marchés, de salons dans le sud-est de la France. Donc là, demain, je pars à Cannes-sur-Mer.
D'accord.
Pour un salon de 4 jours. J'ai un marché à Monaco, à Beaulieu aussi. À Beau-Soleil, pardon.
Donc, en fin de compte, vous vous faites connaître à travers des salons.
Voilà, à travers des salons. Et l'idée, c'est dans le temps, peut-être, monter une petite boutique sur Boulazac-Île-Manoir.
Donc, en fin de compte, on vous connaît plus ailleurs qu'en Dordogne, alors?
Oui, c'est vrai que j'ai développé plus sur cette partie du sud-est, parce que j'ai de la famille et j'avais déjà un bon... un bon portefeuille client là-bas. Donc, j'ai développé là-bas, où je dis 3 et 4 fois par an. Après, un petit peu Bordeaux aussi. Et après, c'est vrai que je m'étais dit que le Périgord était peut-être déjà un peu bouché, entre guillemets, par rapport au foie gras. Donc voilà, c'est vrai que...
Oui, il y a quelques conserveurs.
Voilà, tout à fait. Donc voilà, j'essaie d'aller où je trouve des salons, où l'ambiance est bonne aussi. Enfin voilà, c'est un tout, quoi.
D'accord. Et il n'y a pas quelque chose à faire entre vous? Enfin, entre deux bons produits.
Si, on a déjà testé des
recettes. Alors, je ne vous demande pas de vous marier devant l'église ou dans l'église, hein, mais commercialement, je ne sais pas, deux produits. Est-ce que ça se marie bien, d'ailleurs? Est-ce que ça peut se marier, le cognac et le foie gras? Tiens, bonne question.
Bah, en fait, le cognac, c'est moi qui l'ai posé, vraiment le déguster avec tout ce qu'il y a de plus gras. Donc, le foie gras, le fromage, voilà, c'est vraiment...
Ah, mais j'ai tapé dans le mille, alors.
Tout à fait. Et c'est vrai que, comme disait Thomas, on a déjà essayé, fait des petits tests. Enfin, Thomas a fait des petits essais en off et peut-être qu'un jour...
Donc alors, on peut tout à fait passer un bon moment avec un bloc de foie gras et une bouteille de cognac. Enfin, pas n'importe quel cognac, hein, surtout le cognac alambic de JPS, spiritueux. Donc ça, on a appris quelque chose, une association peut-être peu connue, en tout cas moi je ne la connaissais pas. Mais oui, mais pourquoi pas monter quelque chose ensemble, de se faire connaître, associer les saveurs,
On en a déjà parlé, c'est vrai que
voyez,
temps fait que on n'a pas encore abouti, mais pourquoi pas un jour. Hein.
Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vers quoi vous vous dirigez demain? Vous, en tant qu'artisan, est-ce que vous avez une vue du futur? C'est quoi votre rêve, Jennifer?
Mon rêve, c'est vraiment développer ce projet, du coup, développer cette marque, peut-être sortir d'autres choses. Alors, pas dans cette gamme alambique, mais pourquoi pas d'autres spiritueux, et continuer un petit peu à développer et de réconcilier peut-être les Français, justement, avec le cognac.
C'est vrai qu'il faut absolument, il n'y a aucune raison. En tout cas, si ça s'est fait, il faut qu'on fasse marche arrière et remettre le cognac au cœur de la maison. On va s'y employer. Et vous, Thomas? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le foie gras, le ranquet?
De continuer à se développer comme ça se développe, tranquillement, gentiment. Et j'ai d'autres projets sur la restauration, notamment, peut-être. Sur une petite table, vraiment... Une petite table atypique avec 10-12 couverts, quelque chose d'extra local.
Qui sera sur la base du foie gras?
Dans un petit... Ouais, sur la base du canard et de l'oie, ouais, c'est l'idée.
Ouais,
c'est
très
l'idée,
bien.
Donc je suis en train de gamberger tout ça. Et voilà, donc l'idée, ce serait que ça se monte et puis que...
Ah, bah, c'est tout ce qu'on souhaite, nous, c'est une bonne idée.
Que je puisse vous accueillir.
Pourquoi le Ranquet, au fait?
Alors le Ranquet, c'est un lieu dit à Saint-Laurent-sur-Manoir, c'est là où mon père gavait. Mon père était gaveur, gavait les oies.
D'accord.
C'est là où j'ai grandi, c'est là où il est né, voilà, c'est là où ma mère est aussi... aujourd'hui, et donc voilà, c'est un endroit qui me tient particulièrement à cœur, donc c'est pour ça que j'ai appelé ma marque Le Ranquet. Voilà.
On l'a pas dit, mais vous êtes tous les deux, enfin vos sociétés sont sur la commune de Boulazac, enfin sur le Grand Périgueux. Le foie gras, je voulais poser la question, où est-ce qu'on peut le trouver? Sur Internet aussi?
Ouais, sur Internet,
vous avez un site,
le site Internet.
Qui s'appelle Le Ranquet, j'imagine,
voilà,
le
tout
site.
À fait, ouais.
D'accord, et JP Spiritueux, sur Internet, on peut pas acheter de bouteilles, mais on peut les regarder. Donc c'est la première étape, on les regarde, on salive un peu, et après on se pose la question, où est-ce que je vais en acheter? Donc on va chez son caviste. Tout bon caviste, j'ai envie de dire professionnel, devrait avoir des bouteilles alambiques dans sa cave. Je vous fais une bonne pub, hein, quand
c'est
même.
C'est parfait,
hein.
C'est parfait.
Je suis bon quand même, hein. Je suis sympa. Aujourd'hui, l'artisanat, on peut dire que il se porte bien. Hein. Pourquoi il ne se porterait pas bien, surtout quand on a cette foi en nous, hein, quand on a cette énergie. Est-ce que vous pourriez, conseiller d'autres personnes qui voudraient se lancer dans l'artisanat mais qui n'ont pas encore osé? Est-ce que vous pourriez leur dire « allez-y, fonce » ou alors « attends, fais gaffe, c'est pas si simple que ça ».
Un petit mix des deux, peut-être. Parce que c'est pas si simple que ça, mais c'est le rêve d'une vie. Donc, c'est très valorisant de pouvoir travailler comme ça.
Thomas, ouais, je rejoins Jenny. Et c'est vrai, comme elle le disait tout à l'heure, on est quand même assez épaulé par les chambres la chambre des métiers, de l'artisanat. Moi, c'est pareil, j'ai eu des très bons rapports avec eux. Ils sont assez disponibles, ils répondent assez rapidement. Donc, faut pas hésiter à se renseigner. Parce qu'il y a des choses qui sont possibles, des aides. Et c'est vrai qu'on le sait pas forcément. Donc... Non, moi j'encourage les gens à se lancer, à réfléchir, bien réfléchir avant quand même, parce que ça se réfléchit, mais après, ouais, se lancer, c'est important.
On a un beau département, puis qui se prête très très bien évidemment, à tous les métiers de bouche, mais aussi à la production, aux agriculteurs. Je lisais dans Sud-Ouest un article intéressant, comme quoi, comme on dit, le bonheur des uns fait le malheur des autres, ou le malheur des uns fait le bonheur des autres, ça va dans les deux sens, mais on a de plus en plus d'agriculteurs qui appellent la Chambre d'agriculture en Dordogne pour savoir s'il n'y a pas des exploitations à racheter. Quand je parle d'agriculteurs, c'est des agriculteurs qui malheureusement sont sur des zones qui, aujourd'hui, en termes climatiques, posent de plus en plus de problèmes, donc des projets de déplacer les productions. Et notre département a encore cette chance d'avoir un climat positif, en tout cas agréable et satisfaisant pour l'agriculture. Donc qui dit agriculture dit... Produits transformés, dit bien sûr peut-être industrie, parce qu'il nous en faut aussi, parce qu'il faut bien nourrir ces millions de personnes, mais aussi des produits artisanaux. Donc vous avez certainement fait le bon choix. Qu'est-ce que, le mot de la fin de cette émission, messieurs, dames, c'est vous qui avez l'antenne.
Un grand merci, surtout. Un grand merci à vous. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler un petit peu de ce qu'on fait et puis de l'artisanat. Ça, c'est vraiment...
Ah si, on a oublié de dire, parce qu'il nous reste quand même 2 minutes et je voulais aborder ce sujet-là avant qu'on se quitte. Le foie gras, OK, ça s'achète en fin d'année. Bon, ça, on le sait. Le cognac, a priori aussi. Le cognac se vend beaucoup en fin d'année, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que bon, il n'y a pas que la fin d'année, quoi. Je sais bien que la fin d'année, on se gave, mais on peut aussi avoir du plaisir un peu pendant toute l'année. Un petit cognac l'été, c'est pas possible?
Si, bien sûr, mais justement, nous...
Et un petit foie gras l'été, c'est pas...
Si, tout à fait,
c'est interdit,
aussi,
hein. Ça?
Non, au contraire, c'est conseillé.
Alors, comment on peut faire pour que le Français percute un peu et se dise, mais il n'y a pas qu'à Noël où on mange ça?
C'est proposer des choses un peu particulières. Voilà, nous, c'est vrai qu'on aime bien justement sortir notre saveur, par exemple, l'hibiscus, proposer des petits événements, une collaboration avec des lieux comme la Bandera, ou avec qui on aime beaucoup travailler sur l'événementiel.
Ah, la Bandera.
Oui, un super point de consommation et un très bon point de vente également, puisque vous pouvez retrouver aussi les bouteilles là-bas. Et voilà,
ah, je ne savais pas.
Ça vous permet de goûter, de jouer au paddle et d'en acheter. C'est parfait.
Ça, c'est bien. C'est un bon équilibre, ça.
Voilà,
et donc, puis, si on a une mauvaise conscience, on peut aller on peut se bouger un peu, quoi. Ouais, faire
exactement.
Du sport.
Exactement.
Faudrait vendre du foie gras là-bas.
Oui, après moi je suis vraiment sur une clientèle de particuliers.
Ouais, de particuliers. 14h27, on va devoir se quitter. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre métier et votre amour de l'artisanat. Merci, ça fait plaisir. Et puis à tous ceux qui nous écoutent, si vous aviez quelques idées en tête, n'hésitez pas, lancez-vous. Ou appelez Jennifer, pourquoi pas.
Avec
Jennifer
plaisir.
Jean-Philippe de la société JP Spiritueux, ou appelez Thomas Massoubre, le Ranquet, conserveur traditionnel canaréois. Merci et à la semaine prochaine.
RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie, elle existe. Des trésors satinés. Doré à souhait.
RLP.
Radio libre en Périgord.